Europe 1.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, l'allocution, la première allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise du coronavirus. Le président intervient dans moins d'une minute. On va suivre ensemble l'intégralité de son propos. Il devrait y avoir des annonces fortes sur le plan sanitaire. On est à 3 jours, vous le savez, du premier tour des municipales. Que va annoncer le président de la République? Passage au stade 3, confinement. Évidemment, on attend des mesures fortes, des réactions, de l'analyse. C'est après, dans la foulée, avec nos invités, nos spécialistes en plateau dans ce studio d'Europe 1.
Vous écoutez Europe 1? Il est 20h. Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy.
Et Mickaël Darmon, vous êtes évidemment éditorialiste européen, éditorialiste politique. La prise de parole du chef de l'État, elle est particulièrement attendue. On la suit ensemble.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présents, tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leurs contacts au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, vous l'ont expliqué à plusieurs reprises. Pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps. Et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Le service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations, pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup, d'ailleurs, ont commencé. Je veux les en remercier. J'ai vu, il y a quelques jours, au SAMU de Paris, une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement, à Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai à l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes. Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Mais je nous connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes ? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective. Sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout, de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons, aujourd'hui, éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en européen, à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je », que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main, pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts, il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés et que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser dans les prochaines heures les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France.
Et vous venez d'entendre l'allocution du président de la République, plus de 20 minutes pour nous dire déjà ce qu'on vous annonce ce soir, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées fermés dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Voilà l'annonce principale du président de la République, des annonces évidemment sur le plan économique, on va y revenir, le travail à distance, qui, autant que possible, a dit le président, les transports publics maintenus mais ne les utiliser qu'en cas de nécessité. Il en appelle à la responsabilité de chacun et bien entendu la plus grande vigilance pour les plus de 70 ans, invités eux aussi à rester à domicile. On en parle avec vous tous dans ce studio, mais je vous donne la parole en priorité, Jean-Paul Hamon, vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Ce soir, c'est une situation à l'italienne qu'on est en train de découvrir.
C'est effectivement ce que craint le président et ce que tout le monde craint depuis quelques jours. On a 8 jours d'avance, sur 8 jours de retard sur les Italiens. Bon, juste avant de rentrer dans le studio, Olivier Véran m'avait appelé pour me dire qu'on allait enfin toucher les masques FFP2 qu'on réclame depuis un moment, qu'on allait en avoir en quantité. Je lui ai rappelé qu'il y en avait besoin également pour les généralistes, mais pour les spécialistes qui sont proches du patient. Donc là, on nous a assuré que ça allait suivre. Il y a eu du retard à l'allumage, incontestablement. Il y a eu beaucoup d'énervement de la part des médecins, mais ils ont assuré quand même pendant toute cette période. Et effectivement, on est en train de passer à la vitesse supérieure avec ces fermetures des écoles, avec ces fermetures des crèches. On va voir si on réussit à freiner, parce que si vous voulez, si, visiblement, s'il prend cette décision après avoir rencontré les scientifiques là aujourd'hui, qu'ils lui disent, comme Angela Merkel qui dit que 70% des gens vont être touchés, 40 millions de Français qui font le coronavirus, même s'il y en a 85% qui s'en rendront pas compte, ça fait quand même 15%, ça fait dire 6 millions qui se retrouvent à l'hôpital. Si sur ces 6 millions, il y en a 6% qui se retrouvent en réanimation, ça fait 3 millions et on a 12 000 lits. Donc, il faut vraiment qu'on prenne des mesures et qu'on freine et qu'on freine et qu'on freine.
Et d'ailleurs, voilà. Il n'a pas manqué le président de la République, on y reviendra dans le détail, de saluer les personnels de la santé engagés. Ces héros, je le cite, hein, ces héros en blouse blanche, cet hommage appuyé. On l'a répété, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées fermés. Quelle organisation à partir de lundi? Vous parliez d'Olivier Véran, vous l'avez cité. Toutes les explications du ministre de la Santé demain matin sur Europe 1, 8h15, 8h45, avec vos questions également à vous les auditeurs. Les règles pour se protéger contre le coronavirus, c'est le ministre de la Santé qui les annoncera précisément sur notre antenne. Ève Roger, du service, chef du service société.
Oui, alors je voulais rajouter à votre liste école, crèche, collège, lycée, université.
Bien sûr.
Donc ça nous fait 12 millions d'élèves, plus 2,7 millions d'étudiants demain qui n'iront pas en cours. Donc ça fait quand même...
Lundi,
à partir de lundi, qui n'y a pas encore en cours, plus les 800 000 profs, déjà. Et puis, le président de la République l'a bien expliqué, ce sont les vecteurs du virus. Donc c'est effectivement une mesure très forte, mais vous remarquez qu'il n'a pas du tout employé le terme stade 3.
Absolument. Néanmoins, il a dit « nous ne sommes qu'au début de cette épidémie et elle s'accélère ». Il a confiance dans la science, il faut avoir confiance dans la science. Les mesures économiques, on en parle avec vous Emmanuel Duteil. Le maintien, il l'a dit Emmanuel Macron, du scrutin des municipales, c'est avec vous Michaël Darmon, Jean-Paul Hamon, bien sûr, président de la Fédération des médecins de France. Et puis les réactions, le SNUPFSU, parce que les écoliers, donc, désœuvrés à partir de lundi, c'est à suivre.
Votre grand journal du soir en édition spéciale avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Le président de la République vient de s'exprimer, Nathalie Lévy. Nous sommes en édition spéciale avec vous et avec vos invités autour de la table. Michaël Darmon, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, Ève Roger et Emmanuel Duteil, journaliste Europe 1.
On est en ligne avec Rodrigo Arenas. Bonsoir, bienvenue, merci. Co-président de la FCPE, la Fédération du Conseil des parents d'élèves. Vous avez entendu comme nous Emmanuel Macron à compter de lundi, crèche, école, collège, lycée, université fermée. Ça veut dire une organisation au cordeau. Comment vous voyez les choses et comment vous réagissez ce soir ?
Nous demandons vraiment par une seule voix, puisqu'en ce que disait le ministre de l'Éducation nationale ce matin et ce qu'il dit par le président de la République, c'est des choses contraires. Et maintenant, nous demandons que vraiment ce que dit le président de la République soit mis en œuvre, que les consignes soient claires et que les parents soient rassurés à la fois sur la prise en charge des salaires, comme il l'a dit, que ce soit mis en œuvre pour que on puisse garder les enfants, mais aussi assurer la continuité pédagogique des élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des inégalités entre les territoires qui font que l'école doit continuer, même s'il va falloir être extrêmement bienveillant vis-à-vis notamment des examens qui vont venir dans les lycées, notamment avec les E3C, etc., de façon à ce qu'il n'y ait aucun élève qui soit pénalisé. Mais encore une fois, nous souscrivons parfaitement depuis le début de cette crise au propos du président de la République, c'est-à-dire que la meilleure des armes pour lutter contre l'épidémie, c'est la solidarité. Ce n'est pas un vain mot dans notre fédération. Aujourd'hui, il faut prendre soin les uns des autres, prendre soin des enfants, des voisins, des grands-parents, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui risquent d'être affectés, parce que la meilleure des réponses, c'est le lien. C'est le lien entre tout le monde. Et c'est ce que nous préconisons à nos adhérents depuis le début, c'est ce que nous préconisons en accord avec la parole présidentielle, c'est-à-dire faire corps ensemble face à cette épidémie et évidemment écouter les scientifiques. Aujourd'hui, il faut arrêter d'écouter celles et ceux qui vendent de la poudre à perlimpinpin en disant qu'il y a des solutions miracles face à cette épidémie. Il y a en France des spécialistes pour dire les bons gestes, pour dire les bons remèdes et faire confiance aux médecins et seulement aux médecins. Voilà, aujourd'hui, il faut faire corps et nous disons aux parents que oui, on va serrer les dents, les enfants ne vont pas être à l'école, ils vont être avec leurs parents ou dans ceux qui trouvent des solutions de proximité. Mais encore une fois, c'est un moment difficile à passer, mais il convient de le passer tous ensemble. En tout cas, c'est ce à quoi nous allons nous employer dans les jours qui viennent, en appliquant les bons gestes, évidemment, mais en s'assurant aussi qu'aucun enfant ne reste sur la route d'un point de vue éducatif et pédagogique. La vie va continuer.
La vie va continuer. On sait que les premières vacances scolaires interviennent le 6 avril, hein, donc au-delà de 15 jours. Néanmoins, Emmanuel Macron saute hein, cette date des vacances scolaires. On est jusqu'à nouvel ordre désormais, ce qui veut dire que avec le délai des vacances scolaires, ajouté à cela, on peut imaginer que pendant cette phase, les choses se calment. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas. Je me tourne d'ailleurs vers vous, Jean-Paul Hamon, pour cet aspect-là. Vacances scolaires, compilées avec cette date, enfin en tout cas d'arrêt à partir de lundi, ça laisse le champ, ça peut laisser un peu de champ.
Ça va limiter incontestablement la navigation du virus, mais... Mais bon, on continue à travailler, donc il va falloir qu'on continue à prendre des mesures barrières, il va falloir les rappeler, et surtout, il a oublié là les anciens, effectivement, il y a des mesures à prendre dans les EHPAD pour protéger les anciens. Il a rapidement parlé des personnes à risque, les gens qui sont diabétiques, obèses, les gens qui ont des chimiothérapies en cours, ou qui ont des maladies immunodéprimées, les gens qui ont des problèmes respiratoires, ces gens-là, il faut les protéger. Si on va avoir des personnes âgées qui sont isolées, mettons, prenons davantage de précautions, mettons quand même un masque, même si on n'a pas de symptômes, au moins parce qu'il y a des cas où on n'a absolument aucun symptôme, aucune courbature, pas de fièvre, mais on peut être atteint par le virus et transmettre la maladie. Donc dès qu'on va voir une personne âgée, on met un masque, on se lave les mains, on fait ça deux fois plutôt qu'une. Et puis je pense qu'avec ça, on va quand même ralentir la diffusion du virus en espérant qu'on aura un printemps chaud et qu'il ne résiste pas à la chaleur.
Alors il faut être optimiste, évidemment. Il faut savoir garder son calme, c'est ce qu'a dit aussi le président de la République. Et il faut aussi, mais on va en parler dans un instant, peut-être se préparer à une deuxième vague. Il ne l'a pas exclu qu'il pourrait toucher les plus jeunes. Michaël Darmon, parce qu'on est à 3 jours du scrutin des municipales, il en a été finalement assez brièvement question dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il a voulu rassurer, le scrutin se tiendra.
Oui, effectivement, il a abordé cette question assez rapidement, en évacuant un peu par le haut, hein, c'est-à-dire en renouvelant sa confiance donc, aux municipalités et aux gens qui ont organisé le scrutin.
J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions.
Michaël Darmon, il faut assurer la continuité de la vie démocratique de nos institutions. On a failli le sauter, ce scrutin, le décaler en tout cas, pas question.
Oui, il concède de manière assez élégante et voilée le fait qu'il a perdu cette bataille aujourd'hui parce qu'il voulait Emmanuel Macron reporter donc ce scrutin et se mettre au fond en conformité et en cohérence avec tout ce qui a été ensuite annoncé. Parce qu'en vérité, ce soir, c'est un quasi couvre-feu sanitaire
qui est annoncé par l'État, le
président donc, de la République, à la fois avec, on l'a vu, les écoles fermées, à la fois avec le télétravail imposé et le confinement pour les personnes, les personnes âgées. Donc on voit bien qu'il y a eu la volonté de se mettre, de ce point de vue-là, en cohérence vis-à-vis de la protection, la mobilisation et puis l'unité. Il en a également profité et il a commencé par cela. Et on l'évoquait tout à l'heure, avant son allocution, c'est exactement ce qui manquait, par une grande déclaration d'empathie avec, bien entendu, les personnels soignants, les fameux héros en blouse blanche et les Français qui ont montré, par leur sang-froid, et démontrer qu'on est une grande nation. Il a également conclu sur le même registre, en encadrant effectivement sa déclaration avec donc, la volonté de faire confiance aux Français et de leur demander justement donc pouvoir continuer à faire les gestes qu'il faut évidemment. Et à être dans l'unité.
Sur ce point, sur ces héros en blouse blanche cités et salués par Emmanuel Macron, Jean-Paul Hamon, c'est grâce à eux si on a pu limiter là le virus.
Je pense que là, pour une fois, l'administration a bien joué son rôle, c'est-à-dire que on a pu retarder le développement des cas. Les premiers cas qu'on a eus, on a suivi étroitement les personnes contacts. On a réussi à contenir quand même dans 2-3 foyers. On a vu ce qui s'est passé en Rhône-Alpes, Auvergne, aux Contamines. Il y a eu quelque chose de remarquable. Donc les libéraux avaient été un petit peu énervés parce que on avait salué l'administration qui avait réagi à 22h un vendredi. Donc ça, c'était bien. On avait salué le SAMU qui avait transporté les gens loin dans les hôpitaux de référence à Grenoble et à Lyon. Mais on avait oublié les libéraux qui avaient libéré des plages de consultation pour soulager les urgences. Donc ça, il y avait des petits trucs. Mais là, les frictions vont être vite oubliées, si vous voulez. Bon, là, on va s'y mettre, quoi. On va avoir des masques, on va pouvoir travailler, on va pouvoir prendre en charge les patients et puis collaborer vraiment, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, de nous avoir accompagnés dans cette première partie, président de la Fédération des médecins de France. Toutes les questions économiques avec vous, Emmanuel Dutheil, c'est dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 qui se poursuit en édition spéciale Nathalie Lévy après l'allocution du président Emmanuel Macron. Vous avez autour de vous ce soir comme spécialiste Mickaël Darmon, journaliste à Europe 1, Ève Roger, chef du service société, et Emmanuel Dutheil, chef du service économie.
Et on est en ligne avec Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu comme nous les annonces d'Emmanuel Macron, en particulier la fermeture des écoles, crèches, universités, etc. à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Et puis on a retenu cette information, se préparer à une deuxième vague, les plus jeunes seraient alors touchés. Un mot là-dessus, ce soir, qu'est-ce que cela veut dire Gilles Pialou ?
Mais moi je pense que d'abord je suis content que le président de la République ait mis cette crise de coronavirus à une dimension nationale, parce que c'est important, ça a été dit par le docteur Hamon tout à l'heure, et ça va être la solidarité de tout le monde, mais voilà, le problème c'est que les choses lui remontent probablement avec un petit temps de retard, et sur le terrain on a déjà cette impression-là quand on compare les chiffres italiens avec les chiffres chinois et qu'on compare aussi avec la grippe, où il faut arrêter d'ailleurs de comparer le coronavirus avec la grippe, on s'aperçoit qu'effectivement dans les réanimations à Paris, dans l'Est de la France, il y a des sujets jeunes qui n'ont pas de comorbidité, et donc on n'est pas dans un phénomène où il suffit d'avoir je dirais une pathologie et plus de 75 ans. Et c'est une façon de préparer aussi à quelque chose dans lequel qui était déjà une réalité sur le terrain.
Alors, ça veut
d'avoir des sujets jeunes sans comorbidité qui sont en réanimation avec des pathologies respiratoires graves qui nécessitent 20 jours de ventilation artificielle et tout ça. Alors, mon discours est différent de celui que j'ai eu il y a peut-être quelques semaines, mais parce que la réalité est différente.
Bon, c'est un confinement qui ne dit pas son nom ce soir. Ce sont des mesures annoncées comme ce que vit l'Italie maintenant depuis le début de la semaine. C'était une nécessité, là, à ce stade, Gilles Pialou. Attendre aurait été une véritable mise en danger de la population.
Mise en danger, je pense que comme ça a été déjà dit sur votre antenne, il faut revenir à des concepts de base de santé publique adaptés aux individus, de mesures barrières, etc. Là, moi, en tant que soignant, d'abord, j'ai entendu effectivement le message héros, mais c'est ça, on sera héros quand on aura contrôlé cette épidémie. Pour l'instant, on est en plein dedans. Mais par contre, je suis obligé de faire une remarque un peu technique, c'est-à-dire que fermer les écoles, on n'a pas de modèle qui montre comment ça impacte négativement sur justement précisément les soins. Parce que voilà, la classe d'âge des infirmières, pour ne citer qu'elles, des internes, etc., c'est des gens qui ont des enfants en crèche et à l'école, donc ça va avoir un impact négatif. Évidemment, ça serait encore pire s'il y avait l'empêchement de circuler dans les transports en commun, mais c'est vrai que là, pendant que je vous attendais, j'avais plusieurs SMS qui disaient déjà le nombre d'infirmières qui donnent notre service, alors qu'on est en train de pousser les murs, ouvrir une activité ambulatoire pour les soignants, ont des enfants précisément en crèche ou en école.
Deux choses, si vous le voulez bien, Gilles Pialou. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie et elle s'accélère, nous dit le président de la République ce soir. À quoi faut-il s'attendre ?
Vous avez vu que le président, comme d'ailleurs d'autres responsables d'État, ne donne pas de date de l'arrêt des mesures.
Nouvel ordre.
Parce qu'il n'y a pas un spécialiste de santé publique, ni un modélisateur qui permet de dire, à partir de ce qui se passe en Chine et à partir de ce qui se passe en Italie, de quand on pourra voir la baisse du pic. Oui. Donc ça c'est une préoccupation centrale. Donc c'est jusqu'à nouvel ordre, comme il l'a dit très justement.
Mais quand il nous parle du pic, quand on parle du pic justement, Gilles Pialou, est-ce qu'on doit imaginer que si aujourd'hui on est quasiment en confinement, c'est parce que le pic là est imminent ?
Je pense qu'on est en semi-confinement parce que on a raté la première étape qui est celle on s'en fout des niveaux, mais qui est celle d'arriver à faire barrage à l'épidémie. Là, pour l'instant, on est juste à essayer d'abraser le nombre de cas qui booste et de pas être dans le modèle italien, qui est un modèle exponentiel qui est tout à fait particulier et extrêmement inquiétant pour les populations compte tenu de ce qu'on voit en Italie avec 6% de mortalité.
Bien sûr. Gilles Pialou, un dernier mot. Les élections municipales sont maintenues, premier tour dimanche. C'est une très bonne chose, c'est ce que vous dites. Pas de risque pour les votants, pour les citoyens qui vont aller voter.
J'ai lu la circulaire de M. Castaner, elle est très précise. C'est sans doute pas l'endroit où on peut le plus attraper le coronavirus. En plus, on n'y va pas en transport en commun. C'est proche de chez nous. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Mais c'est important parce que le message était inaudible. C'est-à-dire que dire aux gens, vous ne pouvez pas aller dans un isolat alors que tout est prévu pour pas que vous soyez contaminés avec des règles très simples. Et en plus, vous pouvez prendre le RER. Ça n'a pas de sens.
Ouais. Merci beaucoup Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Thonon à Paris, de nous avoir répondu ce soir. Je vous informe, vous auditeurs, matinale spéciale demain sur Europe 1, 6h à 9h avec Matteo Renzi, ex-premier ministre italien. 7h40 également, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. On parle des questions économiques dans un instant. Et puis à 8h15, Olivier Véran, le ministre de la Santé, jusqu'à 8h45. Posez toutes vos questions au ministre. Il répondra sur les règles pour se protéger contre le coronavirus.
Votre grand journal du soir en édition spéciale sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir en édition spéciale après l'allocution du président Macron, Nathalie Lévy, autour de vous, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, et Emmanuel Dutheil, chef du service économie.
Alors, à compter de lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités seront fermées, on l'a entendu. Emmanuel Dutheil, évidemment, tout cela a des conséquences économiques. De toute façon, ce coronavirus a d'ores et déjà des gros impacts sur l'économie mondiale. Emmanuel Macron a dit des choses pour à la fois les personnes salariées, mais pas seulement, écoutons-le.
Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux.
Voilà, et travailler à distance autant que possible. Emmanuel Dutheil, on est dans des mesures hors normes.
Oui, il y a deux points extrêmement importants dans ce qu'a dit le président de la République. Le premier, c'est effectivement tous les parents qui vont être contraints de garder leurs enfants qui ne peuvent pas aller à la crèche, à l'école ou à l'université, même si ceux-là ont sûrement moins besoin d'être gardés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront objectivement pas travailler, là en télétravail, quand on doit garder un enfant de 3, 4, 5, 6, 7 ans, vous ne pouvez pas travailler normalement. Donc premier point extrêmement important d'Emmanuel Macron, la collectivité prendra en charge les salaires de ses parents qui vont être contraints de rester travailler. L'autre point extrêmement important, c'est que cette crise a déjà aujourd'hui eu des conséquences extrêmement importantes sur l'économie. Il y a beaucoup de secteurs, et le président de la République a cité les traiteurs, l'événementiel, les congrès et tout, qui sont en grande difficulté. Et là, il a fait une annonce extrêmement importante sur ce qu'on appelle l'activité partielle, qu'on appelle plus communément le chômage partiel. Il a dit qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? C'est que ces mesures sont contraintes par des plafonds. On ne peut pas en faire plus d'un certain nombre d'heures par an, ben là, très clairement, on va déplafonner. Très clairement, sûrement, le collaborateur aura la quasi-totalité de son salaire, même s'il est contraint de rester chez lui, faute d'activité. Donc, c'est deux points extrêmement importants. Mais il faut voir que là, la décision qui est prise, qui, comme vous le disiez très bien, Nathalie, est une sorte de confinement qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que le pays va vivre au ralenti. C'est-à-dire que si vous mettez tout le monde en télétravail et que si vous mettez au moins un parent sur deux pour s'occuper des enfants à la maison, votre pays ne tourne pas normalement. Donc il va falloir faire le dos rond et c'est pour ça qu'il annonce par ailleurs un énorme plan de relance. Alors vous aurez bien noté qu'il n'en donne pas les contours et qu'il surtout il se dit ce sera sûrement un plan européen. Autrement dit, il faut qu'on fasse une relance budgétaire. Mais quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés, on a passé une journée historique en bourse, plus forte baisse de l'histoire du CAC 40 Exactement. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre très, très, très vite à cette inquiétude.
Et très fort, on l'a compris. Mickaël Darmon, Emmanuel Macron qui a annoncé mesures exceptionnelles et massives de chômage partiel. Il va s'entretenir aussi très vite avec Donald Trump parce que surtout, il faut éviter la division. Il parle aussi à l'Europe, aux Européens.
Oui, il a voulu aussi également ce soir donner une dimension fortement politique à son propos, pas simplement faire un énoncé de mesures et de consignes. On l'a vu effectivement lorsqu'il a expliqué qu'il fallait absolument éviter le repli nationaliste. On a vu également lorsqu'on a compris, même si il en a uniquement dressé les contours, mais enfin on sait qu'il y a eu aujourd'hui une très forte tension politique au sommet de l'État entre le Sénat, les maires de France à droite et l'Élysée avec Emmanuel Macron qui lui voulait donc prenait le report des élections municipales. Mais voilà, il y a une réelle volonté aussi à droite de vouloir garder ce moment des municipales qui déclenche en fait la séquence pour 2022 et également l'opinion qui se montre en faveur du maintien des élections donc municipales. Donc de ce point de vue-là, il a dû céder. On a également entendu un président extrêmement volontariste lorsqu'il a abordé les questions donc économiques et sociales quand vient de l'aborder Emmanuel Dutheil en disant à chaque fois « je veux ». Là, il a voulu montrer absolument que c'est lui qui décidait de la protection des salariés et de du monde de l'entreprise. Et enfin, il y a eu l'exaltation de l'unité nationale. Et ceux qui connaissent aussi un petit peu les grimoires de la politique ont bien entendu lorsqu'il a dit à la fin, donc il a évoqué la France unie. Oui. Eh bien, c'est le slogan de François Mitterrand en 1988 qui était au cœur de sa campagne pour sa réélection. Oui. Donc, quelque part, on pourrait y voir aussi un autre signal subliminal.
Alors, je voudrais simplement, dans un instant, qu'on revienne évidemment sur ce que ça va engendrer pour les familles à compter de lundi avec vous, Ève Roger, chef du service société. On est avec Benoît Serre en ligne, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Sur Europe 1. Donc, dès lundi, la donne va clairement changer avec une invitation très ferme du président à opérer en fait du télétravail avec aussi des garanties, un mécanisme de chômage partiel qui sera mis en œuvre, etc. Que dites-vous ce soir de toutes ces mesures annoncées?
On s'y attendait. On se doutait bien que ça allait arriver. C'était logique. Maintenant, il faut voir que le télétravail, il a déjà commencé, mais il va faloir l'organiser encore mieux, puisque les fermetures des écoles, des crèches, des universités, etc., ont commencé à créer des sacrés problèmes de garde. Même si le président de la République a annoncé qu'il y aurait des mesures d'ordre régional, si j'ai bien compris, on sait bien que la réalité sera tout autre et que les parents ont un week-end pour s'organiser.
Ouais. Gilles Pielou, outre ces aspects-là d'organisation, le mécanisme de chômage partiel, excusez-moi. Outre ces mécanismes, le travail à distance autant que possible, ça paraît simple comme quand on le dit comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la pratique, on va pas se mentir.
Ah non, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, vous avez, comme chacun le sait, des métiers qui sont pas possibles à faire en télétravail, mais surtout, la question est de savoir si les entreprises vont avoir des systèmes de bande passante qui vont tenir si vous avez plusieurs centaines ou milliers de salariés qui se connectent en même temps. Donc, certaines entreprises commencent à s'organiser pour dire qu'il y a des salariés qui devront être en télétravail de telle heure à telle heure. Donc, il y a des sujets technologiques, ça c'est un premier point très fort. Et puis, il y a des sujets de production. Je pense que le chômage partiel qui a littéralement explosé depuis une semaine va tripler, quadrupler de volume dans les jours qui viennent. Donc, le président de la République a fait des annonces pertinentes sur la prise en charge des salaires parce qu'après, vous avez une difficulté puisque vous savez que vous n'êtes pas compensé intégralement.
Merci.
Donc, apparemment, ça va changer.
Merci beaucoup, Benoît Service, président de l'Association nationale des DRH. On revient à ce qui, évidemment, va modifier considérablement le quotidien des gens à compter de lundi. Ève Roger, la garde des enfants.
Oui, comment alors, si j'ai bien écouté le président de la République, je pense que l'organisation de façon régionale de la garde d'enfants, c'est seulement pour le personnel soignant. Parce qu'on l'a vu à quel point c'est important que les infirmières, les médecins et les aides-soignants aillent travailler. Donc il y a ce service-là. Mais je voudrais rappeler aux parents que d'habitude, il y a eu la grève des transports, en tout cas on l'a connue beaucoup ici en Île-de-France. D'habitude, on envoie les parents chez les enfants, chez les grands-parents.
Sauf que là...
Et là, on vient de dire que les plus de 70 ans, ils doivent rester plutôt à domicile.
Tous les grands-parents n'ont pas plus de 70 ans en France.
Pas tous, mais beaucoup. Donc ça, c'est déjà une première barrière. Et puis deuxième barrière, il y avait aussi des parents qui s'étaient organisés entre eux. Tu gardes aujourd'hui les enfants et là, donc le principe même du confinement des enfants, et ça, c'est plus possible. Donc c'est vrai que ça va être une situation extrêmement délicate
et
extrêmement
compliquée. Et c'est vrai que ça va demander aux parents et là aux entreprises, mais comme le disait votre invité à l'instant, une souplesse inédite. C'est-à-dire, ce qui va se passer là, ce n'est jamais arrivé de l'histoire récente. Alors heureusement, j'ai envie de dire, grâce ou à cause des grèves, on a testé le télétravail, mais on n'a jamais testé un exercice global
à cette
comme
échelle,
ça, à devoir... En plus, gérer les enfants. Donc, la réaction des entreprises, la réaction des collaborateurs va être intéressante à voir. Et c'est un défi pour l'économie et un défi pour tout le pays.
On va s'arrêter là, si vous le voulez bien. Je voudrais simplement vous annoncer qu'Olivier Véran sera demain matin de 8h15 à 8h45 l'invité de la matinale de Mathieu Béliard au micro de Sonia Mabrouk. Hashtag ma question au ministre pour l'interroger très concrètement sur les règles pour se protéger contre le coronavirus sur Twitter. N'hésitez pas. Matinale donc dès 6h avec Matteo Renzi, ex-premier ministre italien, 7h40 Geoffroy Roux-Bézieux, le président du MEDEF, et 8h15 donc Olivier Véran, ministre de la Santé. On rappelle donc les annonces principales ce soir du président de la République Emmanuel Macron à compter de lundi. Crèche, école, collège, lycée, université fermée. Quelle organisation pour vous? Quelle organisation également dans les entreprises? Quand le président insiste sur le fait que, certes, les transports publics seront maintenus, mais il en appelle à la responsabilité de chacun pour limiter au maximum ses déplacements, limiter également les rassemblements. Les plus de 70 ans sont invités très largement à rester à domicile. Ils sont les plus vulnérables. Des annonces aussi sur le plan économique avec le report d'impôts et de cotisations, un mécanisme de chômage partiel qui sera mis en œuvre. toutes ces annonces faites par le président de la République sur lesquelles on revient évidemment très longuement tout au long de cette soirée. Merci à tous de nous avoir suivis.
Merci Nathalie Lévy. Dans un instant, Émilie Mazoyer sur Europe 1. Très belle soirée, il est 21h.